Il est 8h41.
France Inter, le 7-9, intervenez.
Au 01 45 24 7000, avec d'abord Vincent qui nous appelle de Nantes. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour. La question ne s'adresse pas simplement à Monsieur Glavany, qui vient de fêter ses 68 ans, et je lui adresse tous mes voeux. Mais lorsqu'on a cet âge, lorsqu'on a tout connu, lorsqu'on a été élu local, départemental, national, bien évidemment, lorsqu'on a été secrétaire d'État et ministre, est-ce qu'il n'y a pas un moment tout de même où on peut songer à passer la main ?
Merci Vincent. Jean Glavany, vous êtes posé la question.
Mais bien sûr que je me suis posé la question. Je me suis posé avant là, cette question. Ces messieurs-là que vous décrivez ne sont pas toujours décervelés et obsédés par leur égocentrisme et leur égotisme.
Ils ont du mal à décrocher parfois quand même.
Oui, mais moi je me suis beaucoup posé la question et... Voilà, j'ai pris 6 mois de réflexion en 2016 avant de décider de me, parce que justement, je voulais vérifier à la fois que j'avais assez d'enthousiasme et d'enthousiasme pour continuer à servir parce que, et d'efficacité. Et puis j'ai voulu consulter aussi un certain nombre de personnes de la circonscription et d'élus. Et c'est peut-être là où je me suis trompé, j'aurais dû peut-être prendre ma décision toute seule. C'est que c'est les élus, les militants unanimes m'ont dit il faut que tu y retournes, parce que on savait de toute façon que cette élection serait difficile pour la gauche après le quinquennat de Hollande, quelle que soit la percée de Macron ou pas. Et ils m'ont tous dit ça va être difficile, si tu ne pars pas on est sûr de perdre, avec toi on a peut-être une petite chance de gagner.
Même donc, dans une terre très à gauche même, comme dans votre circonscription.
Même dans une terre très à gauche comme ma circonscription. Mais, ouais. Et donc oui, je me suis posé la question et voilà, et en tout cas j'avais annoncé que si j'étais élu c'était mon dernier mandat, que je voulais préparer la femme jeune que j'avais choisie comme suppléante pour lui, parce que je pensais que ça devait être le mandat de la transmission. Et bien voilà, c'est j'aurais pas eu la chance et la sérénité de mettre ça en œuvre, mais si monsieur on y pense plus que vous ne le croyez, en tout cas, mais vous savez, je vois autour de moi des gens de plus âgés que moi qui vont être élus. Voilà, y compris par le renouveau politique de la République en marche, donc tout ça amène à relativiser les choses.
Hervé nous appelle de Ploubazlanec, ça doit être dans les Côtes d'Armor, c'est ça Hervé, bonjour.
Oui, tout à fait, c'est dans les Côtes d'Armor. Oui, bonjour, voilà ma question pour Monsieur Glavany, il a tenu un propos tout à l'heure, il semblait favorable à ce qu'aujourd'hui il faille faire un inventaire du quinquennat de François Hollande et de l'action du Parti Socialiste donc depuis 5 ans. Je crois me souvenir que après le deuxième septennat de François Mitterrand, il était, comme de nombreux très hauts responsables du Parti Socialiste, hostile à ce qu'un inventaire des septennats de François Mitterrand soit fait à ce moment-là. Est-ce que si on l'avait fait à ce moment-là, on n'en serait pas là où est le Parti Socialiste aujourd'hui ?
Merci Hervé. Jean Glavany.
Non, vous avez tort. Le devoir d'inventaire, c'était Lionel Jospin qui l'avait exprimé. Et j'avais trouvé l'expression, à l'époque maladroite, mais elle avait une efficacité poétique que j'avais, parce que je suis aussi fidèle à la mémoire et à l'amitié de Jospin que à celle de Mitterrand. Donc je pense qu'on a toujours besoin de faire un inventaire de ça. Et d'ailleurs, dans la situation où se trouvent les socialistes français, il ne s'agit pas seulement de faire l'inventaire du quinquennat de Hollande, mais au fond des 15 dernières années du Parti Socialiste depuis 2002 et de ce quinquennat dans la foulée. Parce que François Hollande, il a été 10 ans premier secrétaire du Parti Socialiste avant d'être président de la République. Donc c'est cette période-là dont je pense que, tranquillement, sereinement, sans accusation excessive et sans encore moins violence, on a besoin de les regarder en face pour
quel a été le problème alors ?
Ah mais
non mais est-ce que c'est du quinquennat, parce que là on voit bien que le quinquennat de François Hollande à partir de 2014 a pris un autre tour et c'est-à-dire qu'il a mené une autre politique économique, une politique économique qu'il n'avait pas annoncée avant. Et qui, semble-t-il, a l'air de porter ses fruits aujourd'hui. Est-ce que c'est de ne pas avoir assumé assez clairement de vouloir tenir les deux bouts de la corde libérale et sociale, ne pas avoir choisi ?
C'est difficile de résumer ça en quelques phrases un matin à France Inter, mais je vais vous faire part de ma conviction profonde sur ce quinquennat. À écouter beaucoup de, notamment les frondeurs et de commentateurs à gauche, ce quinquennat, je le résume d'un trait, n'aurait pas été assez à gauche, quoi. Et avec cette politique économique, on aurait trahi les engagements de la gauche. Et moi, je pense que c'est pas de gauche que ce quinquennat a manqué, c'est de République. Je pense que On a manqué d'un chef d'État, d'un homme d'État qui soit le chef d'État, avec de l'autorité naturelle, avec le sens de la décision, de la cohérence, de la fermeté. Il n'y a pas eu d'incarnation quoi, de la République au plus haut niveau de l'État, et que beaucoup de Français se sont trouvés perdus par rapport à ça. Personne ne leur a parlé de la France, personne ne leur a parlé de ce que c'est que de vivre ensemble dans un pays moderne.
Donc ça s'appelle François Hollande. Dire qu'il n'y a pas eu d'incarnation, ça veut dire la présidence a été mal incarnée par François Hollande.
Je ne vais pas pointer du doigt comme
non,
ça.
Ça veut dire.
Mais ça veut dire ça, évidemment, aussi. Ouais. Parce que moi, je suis un mec normal, c'est-à-dire que dans toute entreprise humaine, une entreprise privée, publique, une association, la politique, le premier responsable, c'est le chef. Le plus responsable, c'est le chef.
Donc, et oui, du point de vue de l'incarnation, là, Emmanuel Macron, vous trouvez qu'il le fait bien ou pas? Vous pouvez être en désaccord sur une ligne politique, une ligne économique, mais de l'incarnation.
Vous qui avez vécu les premiers pas de François Mitterrand à l'Élysée en 80 comme chef de cabinet, je
veux dire que sur l'incarnation, il n'y a pas grand-chose à dire en reproche à Emmanuel Macron depuis le début, sur l'incarnation. Je pense qu'il a plus incarné la République en un mois que Hollande en 5 ans.
C'est sévère, ça.
Oui, mais c'est ce que je ressens et je crois parce que je ne suis pas le seul. Après, ça ne m'interdit pas d'avoir un esprit le moment critique. Bon, il est trop tôt pour critiquer l'action d'Emmanuel Macron puisqu'on n'en a pas vu les résultats. Mais je pense ça profondément, oui.
Jacques nous appelle de Nice. Bonjour, Jacques.
Oui, bonjour. Je suis d'abord très honoré de parler à nous. À gauche, comme M. Glavany. Je suis également très honoré de parler à Patrick Cohen. Hélas, peut-être pour l'une des dernières fois sur Inter.
Non, non,
hélas.
Ça va continuer. Bon, alors, voilà. Votre question, et Jacques.
Ma question, si vous voulez, moi je suis à gauche, si vous voulez, d'une manière générale, au PS depuis quelques années, et en plus j'ai le même âge que M. Glavany. Je suis très vieux, je suis très très vieux. Mais j'ai un très beau chiffre, 68. Je voulais savoir justement, est-ce que M. Glavany ne pense pas, je peut-être des idées, des sigmes, qu'une solution de type de ce qui était arrivé en Italie, de l'olivier, serait intéressante actuellement pour la gauche et peut-être pour la France?
Alors, l'olivier en Italie, oui, coalition de centre-gauche, mais bon, est-ce que, d'abord, oui, on tourne autour de l'avenir du PS, Jean Glavany, est-ce qu'il est condamné à être un parti d'opposition résiduelle
autant j'ai dit ma conviction profonde que l'idée socialiste ou telle que je la décrivais tout à l'heure, je le répète, cette alliance traditionnelle et majeure pour moi entre les libertés individuelles et collectives et la justice et la justice sociale, le progrès social, cette alliance-là, elle était plus que jamais d'avenir et plus que jamais moderne dans des pays comme les nôtres, autant je suis d'une grande sévérité sur ceux qui, aujourd'hui encore, se disent l'incarner à travers le Parti Socialiste. Alors, faisons-le en quelques mots. On est quand même le seul parti démocratique au monde. Vous m'entendez? Le seul parti démocratique au monde dont le chef reste en place après une raclée pareille. Il n'y a pas un parti dans le monde où le chef reste en place.
Est-ce que M. Combadélis va rester en place?
Il est là, toujours.
Oui.
Il est là, toujours.
Il n'a pas encore perdu. Si, il a perdu.
Enfin, il est éliminé. Il est présidentiel après la présidentielle.
Pardon.
Non, mais la présidentielle,
législative, c'est une seule... J'attendais le second tour, mais il n'y avait pas...
Non. Deuxièmement, c'est le seul parti où on voit le candidat à l'élection présidentielle soutenir des candidats d'autres partis contre des candidats associés. C'est le seul parti...
Ça, c'est Benoît Hamon pour l'opposante Emmanuel Valls.
C'est le seul parti où, quand on réunit un bureau national après une raclée, on prononce des exclusions. C'est le seul parti où des dirigeants créent un parti tous les jours. Il y en a déjà deux ou trois. On est complètement fous. Donc, je veux dire, les dirigeants du Parti Socialiste aujourd'hui n'ont rien compris à ce qui se passe, la tragédie qui se passe pour l'idée socialiste en France. Donc, tout est à reprendre. Le nom, j'en sais rien. Le leadership, la stratégie, le programme, les propositions, le positionnement, tout est à refaire.
Un congrès refondateur.
Ouais, enfin c'est passer le coup de bulldozer et reconstruire un ensemble. Je m'occupe d'HLM dans mon département. Je vous assure que là, c'est une réhab, ça suffira pas.
J'ai dit un peu schématiquement tout à l'heure, Jean Glavany, que vous aviez été balayé par le candidat investi par En Marche, mais je dois ajouter que vous avez été aussi battu de près de 400 voix par la candidate de la France Insoumise, qui elle a été qualifiée pour le second tour dans votre circonscription. Le PS se fait, c'était l'objectif de Jean-Luc Mélenchon, le PS est en train de se faire remplacer par les insoumis à gauche.
Je sais pas, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une partie de l'électorat de gauche. Le drame du Parti Socialiste, c'est que à l'élection présidentielle, son électorat s'est éclaté en trois parties inégales. Une petite partie qui est restée sur le candidat socialiste, 6 points et quelques. Une grande partie qui est allée chez Macron et une partie aussi qui est allée chez Mélenchon. Et que rassembler ces trois parties au moment de l'élection législative, c'était une gageure quasi impossible. Et je vous le dis, le résultat sera, je ne sais pas s'il y aura 15, 20, 25 ou 30 députés socialistes le dimanche prochain, mais 99% de ceux qui seront élus le seront simplement parce que La République En Marche n'aura pas mis de candidat contre eux. Et donc, ça sera des satellites de La République En Marche qui aura bien voulu qu'ils soient élus.
Et donc, vous ne savez pas si le Parti Socialiste va connaître un déclin irréversible comme
mais il peut plus
a été
décliner,
celui,
au point où il en est, Patrick Seguin,
celui
mais...
du Parti communiste. Non, mais on disait par exemple le Parti communiste en 81 après l'échec de Georges Marchais, on disait bah il va rebondir, ça va revenir. Puis ça n'a fait que
oui,
ça que dégringoler. Donc oui, est-ce que ça peut être le destin
et
du
ce
du
grand
PS
ce grand tohu-bohu là qui fait que le Parti de En Marche a pillé les voix du Parti socialiste, et se situe aussi à gauche où les Insoumis ont pillé les voix du Parti communiste, y compris dans ma circonscription, où il y avait deux candidats Front de Gauche qui étaient des élus locaux soutenus par un certain nombre d'élus locaux, des maires de communes non négligeables dans ma circonscription, des maires communistes, balayé tout ça. Donc il y a un grand coup de torchon qui a été donné par ces deux partis nouveaux et qui font irruption. J'espère que c'est un changement de logiciel politique, j'espère que ce n'est pas un changement de logiciel démocratique, que ça serait plus grave, mais pour l'instant je suis prudent.
Jean Glavany, vous restez avec nous, on va accueillir dans un instant Augustin Trapenard avant de retrouver Nicole Ferroni. Il est 9h05, bonjour Augustin Trapenard.
Salut Patrick.
Vous avez une question pour notre invité?
Oui, bonjour Jean Glavany.
Bonjour.
J'ai retrouvé sur votre page Facebook, il y a 2 ans, une phrase de François Mitterrand que vous citez pendant la cohabitation de 86-88, sur laquelle vous nous invitez à méditer sur Facebook. Ils disent que je suis vieux, c'est vrai, mais j'ai rencontré beaucoup de jeunes crétins dans ma vie et je sais une chose, on a l'âge de son projet. Phrase assez géniale, aujourd'hui je trouve. Alors question franche, Jean Glavany, quel âge est-ce qu'il a pour vous le projet de La République En Marche?
Vous me désarçonnez, Augustin Trapenard, comme souvent, mais et c'est aussi votre talent. Il a l'âge, le projet de La République En Marche, je le connais peu, voilà, je le connais peu. Et je crois que les Français le connaissent peu, on va le découvrir en marchant, si j'ose dire. Je prenais l'exemple tout à l'heure de ce projet de loi par ordonnance sur le marché du travail. Pourtant, j'ai essayé de regarder de près, mais je suis infichu de vous dire ce qu'il va contenir. Pourtant, je m'intéresse à ces choses de près et je pense qu'il y a beaucoup de syndicalistes qui sont sortis de l'Élysée, de Matignon, sans savoir ce qu'il y a encore, ce qu'il y a à voir dedans. On voit bien, on doit bien l'idée, mais le diable est dans le détail, dans ces affaires-là. Donc, on va découvrir tout ça. On va découvrir tout ça et je pense que ça va donner une vie politique à la fois inédite et très riche dans les mois qui viennent. Je le dis avec beaucoup de sérénité. C'est très nouveau. Pour l'instant, c'est tout beau. Ça peut le rester, mais c'est aussi bourré de risques. Et donc, je suis à la fois assez confiant dans les capacités du chef de l'État. Je l'ai dit tout à l'heure à ma manière. Je pense que c'est un homme compétent, sérieux, bosseur, qui a une certaine idée de sa fonction. J'ajoute que ce qui me plaît en lui, c'est qu'il est là pour faire, et non pas, comme beaucoup, pour être ou pour paraître. Et donc, il est là pour faire. Mais je suis plus inquiet de son parti, parce que je suis pas absolument certain que dans son parti, il y ait des certitudes quant à l'absence de risque.